Monseigneur Marcaillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évêque de Bayonne, en France. On vous a vu, on vous a remarqué suite à votre communiqué du 19 janvier pour la Marche pour la vie qui s'est tenue à Paris.
Oui.
Pour laquelle vous avez employé des termes extrêmement clairs, extrêmement fermes sur la nécessité pour les catholiques de s'engager pour la vie.
Absolument.
Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau de voir des évêques français marcher, battre le pavé en même temps que les militants pour la vie? C'est quelque chose de récent?
Alors, c'est un peu nouveau depuis quelques années où nous étions peut-être deux ou trois. Bon, cette année, on était quatre. Mais je pense que le comité de soutien à la Marche pour la vie a vu la participation quand même de plus d'une trentaine d'évêques apporter leur soutien, même s'ils n'ont pas forcément battu le pavé de Paris. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif de l'épiscopat français depuis 1975, où c'est vrai que nos aînés étaient restés fâcheusement silencieux par rapport à la loi Veil de dépénalisation de l'avortement, eh bien cet inconscient est un peu brisé en ce moment, avec peut-être les nouvelles générations d'évêques qui sont sans doute de la génération Jean-Paul II, qui était le pape par excellence de l'évangile de la vie. Et on voit aujourd'hui que cette question revient au cœur de nos débats. Par exemple, depuis un an, un groupe de travail a été, j'allais dire, adopté à la majorité des deux tiers, comme toutes les décisions que nous prenons dans notre conférence épiscopale, pour nous faire réfléchir et travailler sur, je dis le titre, le phénomène social de l'avortement et ses conséquences pour l'éducation des jeunes. Donc c'est quand même, je pense qu'il y a une prise de conscience plus pratique dans l'engagement, en tout cas, au sein de notre conférence des évêques. Alors il faut dire aussi que cette marche pour la vie cette année est apparue dans un contexte tout à fait particulier. Vous savez qu'elle a eu lieu le 19 janvier à Paris, et le lendemain était discuté au Parlement un projet de loi qui, sous prétexte d'égalité des hommes et des femmes, comprenait des amendements qui constituaient à supprimer la cause de détresse de la femme qui était dans la loi de dépénalisation de l'avortement de 1975, pour la remplacer par une clause « si la femme ne désire pas poursuivre sa grossesse ». Ça voulait dire reconnaître légalement, une chose qui était sans doute déjà dans la pratique, mais l'entériner dans la loi, ce qui est beaucoup plus grave, de reconnaître l'avortement comme un droit, en toutes circonstances. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui avait alerté les évêques, déjà à l'Assemblée plénière de novembre, par la voix du président de la Conférence des évêques de France, qui est nouveau, qui est Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, qui avait d'ailleurs insisté explicitement sur ce projet de loi dans ses vœux pour Noël et le Nouvel An, et un communiqué du Conseil permanent, très clair et très ferme pour dénoncer les avancées de cette loi, a été publié la veille, enfin quelques jours avant cette marche pour la vie.
Alors les choses bougent en Europe et dans le monde, aux États-Unis, la cause de la vie avance. En Espagne, le gouvernement s'apprête à réformer la loi. Comment expliquez-vous cette course en avant du gouvernement français?
Alors évidemment, on sent qu'il y a un parti pris idéologique très très fort dans ce gouvernement socialiste, qui a décidé sur les grands sujets sociétaux, comme on dit aujourd'hui, de la vie à son commencement comme à son terme, s'il y a une loi sur la fin de vie qui s'annonce également pour légaliser le suicide assisté ou l'euthanasie active, sur la question du mariage, comme on l'a vu l'an dernier, qui a aussi suscité un réveil des consciences, moi que j'ai appelé un printemps des consciences en France, quand on a vu ces centaines de milliers de citoyens, monsieur et madame tout le monde, sans doute emportés pour la plupart par un élan catholique de l'Église qui s'est engagé par la voix de très nombreux évêques, on sent qu'il y a un réveil des consciences qui est suscité par ce parti pris idéologique d'un gouvernement qui veut vraiment découdre avec les valeurs traditionnelles de notre société.
Vous croyez en l'exemple des évêques, vous croyez en la force de conviction de l'Église catholique?
Alors je pense vraiment que les manifestations sans précédent qui ont rassemblé encore une fois plus d'un million de personnes à chaque fois à Paris à trois reprises en 2013, n'aurait jamais été possible si les évêques n'avaient pas pris eux-mêmes la décision de parler. Et de parler d'ailleurs pas forcément seulement ensemble, comme c'était souvent le cas autrefois, mais chacun dans son diocèse, et grâce aux réseaux sociaux, c'est vrai que tout ça est diffusé largement. Et c'est vrai que tous ces évêques qui ont parlé, qui ont dénoncé ce projet de loi de mariage pour tous et qui ont souvent encouragé à se manifester, comme disait le cardinal 23 de manière très habile, mais même à manifester avec leurs fidèles et avec bien d'autres qu'ils retrouvaient sur le pavé de Paris, je crois que ça a été assez déterminant. Vous savez peut-être qu'il y a un sondage qui a été publié récemment, qui avait été demandé au Pinelway, par le CIVPOF, là de Sciences Po, je pense, et qui a mis en avant que 46% des Français ont confiance dans l'Église catholique. Et c'est dans ce contexte où l'Église a parlé davantage que ce sondage a été fait. Alors que 23% des Français ont confiance dans les médias et 13% seulement dans les partis politiques. Donc c'est dire, je pense, que la voix de l'Église, quand elle se fait entendre, a un certain impact dans la société française, même si elle peut créer aussi, paradoxalement, des divisions au sein de communautés chrétiennes. Mais en tout cas, je pense qu'elle est attendue. Et que quand l'Église honore sa mission prophétique, d'annoncer la vérité, pas seulement la vérité sur Dieu et sur le salut, mais aussi sur l'homme, hein, parce que en assumant notre condition humaine en toute chose, le Christ, dans son évangile, a quelque chose à dire sur l'homme, et aussi dans toutes ses dimensions personnelles et sociales, y compris sur l'organisation de la société et sur les lois qui régissent l'organisation de la société pour le bien commun, c'est-à-dire ce bien que tous peuvent rechercher en commun et qui peut seul garantir la dignité de toute personne humaine sans exception, à commencer par la plus fragile, la plus faible et la plus sans défense.
Donc je crois que vous connaissez un petit peu la Suisse, hein. Vous y avez fait des études de droit canon, si je ne me trompe.
De théologie.
De théologie
morale avec le père Pinkars, l'Université de Fribourg.
Alors les évêques suisses sont un peu plus discrets en cette matière. On a discuté en préparant cette interview de la perplexité des catholiques suisses devant les hésitations de la conférence des évêques suisses concernant une votation à venir le 9 février prochain qui demande la cessation du remboursement obligatoire des avortements par le biais des primes d'assurance maladie. Certains évêques ont manifesté leur soutien à cette initiative. Ce n'est pas la majorité. Les autres évêques ont préféré laisser la liberté de vote, craignant, disons, sur la base d'une interprétation un petit peu particulière du titre de l'initiative, craignant de reconnaître l'avortement s'ils appelaient à voter oui. De votre point de vue, évidemment, vous êtes un petit peu loin de la Suisse, mais de votre point de vue, est-ce que la nécessité d'un engagement pratique conforme aux réalités du terrain se prête, ou au contraire, il faut vraiment se confiner à une réserve intellectuelle, idéologique, extrêmement stricte?
Alors, si vous voulez, moi, je crois que dans la mesure où on est tous bien d'accord sur la finalité, qui est en effet que l'avortement est un véritable drame, hein, et qu'elle est, comme disait le Concile Vatican II, un crime abominable, et que, comme disait encore le pape François récemment devant le corps diplomatique, que la simple idée que des enfants ne verront jamais la lumière victimes d'avortement nous fait horreur, je crois que si on est bien d'accord sur cette finalité-là, il est possible en effet que dans l'ordre des moyens, il y ait une certaine liberté qui soit consentie à tous, hein, et y compris aux évêques et aux fidèles de l'Église catholique. Cependant, je crois qu'il faut en effet être bien clair sur ce véritable drame. Nous, en France, c'est 220 000 avortements par an, et la loi de dépénalisation de 1915 non seulement n'a pas fait baisser le nombre d'avortements clandestins, mais au contraire augmenté objectivement, peut-être du simple au quadruple, le nombre d'avortements en France. Donc si vous voulez, c'est quand même très grave de penser que l'anesthésie des consciences, qui est favorisée par les lois en présence, finissent par banaliser le fait que des enfants sont quand même massacrés dans le sein de leur mère. Donc je pense que tout est bon stratégiquement sur une stratégie politique pour faire avancer la cause de la suppression de l'avortement. Et c'est vrai que quand on sait qu'une loi, et quand on est sûr qu'une loi ne peut pas être abrogée, eh bien on peut, comme disait Jean-Paul II dans son encyclique Evangelii Vitae au numéro 73, on peut, à partir du moment où il est bien clair que ceux qui portent cette initiative populaires sont absolument contre l'avortement, ils l'ont suffisamment fait savoir, et c'est su de manière suffisamment publique, on peut demander des aménagements qui permettront d'en réduire la portée. Et il me semble, mais là je vois ça de loin, puisque je suis en France, il me semble que cette initiative populaire entre parfaitement dans ce cadre.
Ce que vous nous dites, c'est que les catholiques pourraient voter en faveur de cette initiative sans commettre de faute ni même d'erreur.
Ben je pense bien, si ces catholiques ont bien dit en défendant cette initiative et en disant qu'ils votent et ont bien dans leur cœur, dans leur conscience, le non à l'avortement et le désir de faire grandir la culture de vie, de toute manière, même s'ils savent que il y a des étapes hein, dans le contexte un petit peu législatif, dans le contexte législatif qui régit la vie d'une société, eh bien, ils peuvent tout à fait penser qu'il y a des étapes qui ne les conduisent pas à se dédire et se contredire.
Dans quelques heures, la France connaîtra la Manif pour tous, première édition 2014. Un réveil après de longues décennies sans mobilisation. Est-ce que l'Église est aussi partie prenante de ce type de mouvement?
Alors c'est sûr qu'elle l'a été beaucoup en 2013. Je crains en effet qu'en France, les évêques depuis la promulgation de la loi dite du mariage pour tous, donc de la loi Taubira, au mois de juin dernier, ou de mai dernier, je crains que la mobilisation soit moins forte du côté des évêques. Il me semble tout de même que plusieurs, dont moi, avons soutenu quand même cette manifestation, car je crois que c'est toujours important de rester, que la conscience qui s'est réveillée demeure éveillée, hein, et continue de, par cette manifestation publique, eh bien, de réveiller les consciences des Français. Je crois que c'est, il faut entretenir en tout cas ce mouvement. Ça n'aura pas forcément un effet bénéfique immédiat dans l'ordre des lois, mais en tout cas, si ça peut alerter de plus en plus de consciences, je pense qu'on marche quand même vers un printemps quand même pour la vie, pour le mariage, pour les valeurs qui garantissent dans la société la dignité de la personne humaine.
Et vous pensez que l'ensemble de l'épiscopat peut encore faire plus, peut encore se réveiller? Il y a encore une forme de somnolence par rapport à la volonté d'engagement?
Ben je pense que on a peut-être été échaudé de manière disproportionnée après nos interventions musclées et quasiment unanimes en 2013 pour défendre cette manifestation pour le mariage qui repose sur l'union stable d'un homme et d'une femme et donc contre ce projet de loi de l'union de personnes de même sexe. Je pense qu'on a été échaudé par les retentissements qu'il y a pu avoir dans nos communautés chrétiennes. Il faut bien reconnaître que une certaine génération de chrétiens est moins sensible à ces questions fondamentales de la vie, de la famille, du mariage, depuis des décennies, hein, ils sont passés par le moule de 68 et les années 70, et donc on a peut-être été un petit peu trop, sensible à ces divisions qui se sont fait jour dans nos communautés, ce qui fait qu'un certain nombre d'évêques ont préféré moins parler publiquement pour défendre ces valeurs-là. Mais je crois qu'il faudrait en effet que, mais je pense que les jeunes générations d'évêques sont effectivement plus sensibles et sont restés sur le pont, emportés par d'autres. Je pense en particulier au cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, primat des Gaules, qui de fait n'a pas sa langue dans sa poche et parle de manière extrêmement prophétique et en plus est répertorié par les grands médias.
Monseigneur Marc Ayet, évêque de Bayonne, nous vous remercions d'avoir répondu aux questions des observateurs.
Merci.